Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien, avec Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste pour Média Ténois. Bienvenue à cette toute dernière émission Territoire d'info. Et oui, il y a déjà 2 ans que j'ai l'honneur d'animer votre émission sur l'actualité des territoires du Nord-Ouest et du Grand Nord canadien. Je ne quitte pas les ondes de Radio-Taga ni les pages du journal L'Aquilon. On y reviendra un peu plus tard à l'émission avec l'équipe de Média Ténois. Pour l'instant, voici ce qui a retenu notre attention cette semaine.
At midnight tonight, the public health emergency and all associated public health orders will be lifted.
Ce vendredi 1er avril marque la levée de l'état d'urgence sanitaire des territoires du Nord-Ouest et de toutes les règles qui l'englobent. En conférence de presse, le 31 mars, l'administratrice en chef de la santé publique des TNO, la Dr Camille Candola, a livré un dernier message sous ce régime qui lui conférait depuis 2 ans le plein pouvoir sur les décisions de santé publique.
The end of the public health emergency and removal of all the public health orders means that the residents will be responsible for making smart decisions to help protect themselves and their fellow community members.
La Dr Candola rappelle que la levée de l'état d'urgence sanitaire et de l'ensemble des ordres de santé publique signifie que les résidents seront désormais responsables de prendre des décisions judicieuses pour se protéger eux-mêmes et les membres de leur communauté. Comme l'a rappelé la Dr Candola, la COVID-19 devrait vraisemblablement s'imposer à l'avenir comme une maladie saisonnière. En se basant sur les leçons apprises au fil des éclosions de COVID-19, mais également de catastrophes naturelles telles que les inondations de 2021, le gouvernement compte outiller les collectivités pour gérer de futures éclosions. La levée des règles de santé publique coïncide avec une augmentation prévue du nombre de cas de COVID-19 dû au sous-variant Omicron BA2.
For the vast majority of NWT, what we have seen with the Omicron wave is one death per 1,000 cases.
La Dr Candola a précisé que la proportion de décès liés à Omicron est de 1 sur 100,000 cas. Une statistique encourageante, dit-elle, d'un point de vue de santé publique.
The beauty about the Omicron is what we have confirmed by reports is 9,000, but it could be much higher than that, likely double that. But how, with the Omicron, the less impact on what we've seen with the Delta variant, how we were able to let go of more and more measures and get to the stage where we are, where we can actually lift the state of public health emergency.
La beauté avec Omicron, selon la Dr Camille Candola, c'est que malgré les 9000 cas confirmés au TNO et le nombre de cas réels est probablement 2 fois plus élevé, les répercussions sont moindres par rapport au variant Delta. Nous avons été en mesure de laisser aller des mesures et en arriver à une levée de l'état d'urgence sanitaire. Camille Candola assure également qu'un retour à l'état d'urgence sanitaire demeure peu probable.
The only time it would occur is if there's another virus that has a high mortality rate and where measures have to be implemented quickly. But we will use the tools that we have used for other pandemics like influenza.
Nous n'aurons recours à l'état d'urgence sanitaire que si un nouveau virus devait apparaître avec un haut taux de mortalité et que des mesures doivent être mises rapidement en place, explique la Dr Candola. Pour la COVID-19, nous pourrons utiliser les outils qui ont été mis en place dans le cadre de pandémies précédentes, comme l'influenza.
We've learned a lot over the past 2 years. It'll be highly unlikely that we would resort to this severe of a public health measure, such as the state of public health emergency.
Nous avons beaucoup appris au cours des 2 dernières années, souligne-t-elle. À l'avenir, lorsque nous observerons des recrudescences de cas découlant de variants de la COVID-19, il est très peu probable que nous ayons recours à ce type de mesures radicales. Depuis le 1er avril, le port du masque, bien que fortement recommandé pour les personnes susceptibles de symptômes sévères, ne sera plus imposé dans les lieux publics, incluant les salles de classe. Le masque sera toutefois imposé dans l'école, en dehors des salles de classe. Les entreprises et organisations pourront également choisir d'imposer ou non le port du masque à l'intérieur de leurs établissements. La municipalité de Yellowknife a pour sa part levé l'obligation de porter le masque dans ses établissements et dans les autobus. Les résidents ne sont plus tenus de s'isoler s'ils obtiennent un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 et n'auront plus à rapporter ces résultats aux autorités. La santé publique recommande toutefois à tout résident qui ressent des symptômes de la COVID-19 de s'isoler à domicile jusqu'à la disparition de ces symptômes.
We share a unique border with Russia, the Arctic Ocean.
Nous partageons une frontière unique avec la Russie, l'océan Arctique. Ce sont les mots de la première ministre Caroline Cochrane qui dévoilait le 28 mars à l'Assemblée législative une lettre co-signée avec ses homologues du Nunavut et du Yukon, les premiers ministres PJ Akegok et Sandy Silver. La missive écrite au début de l'invasion russe en Ukraine est adressée au premier ministre du Canada. Les signataires réclament notamment une conférence téléphonique avec Justin Trudeau pour discuter de la sécurité et la souveraineté de l'Arctique.
Earlier this month, I attended a confidential briefing with officials at the highest level of military, security and intelligence branches of the federal government.
Madame Cochrane a indiqué à l'Assemblée législative avoir assisté en mars à une réunion d'information confidentielle avec les responsables au plus haut niveau des branches militaires, de sécurité et de renseignement du gouvernement fédéral.
Mr. Speaker, Russia has broad interest in the Arctic.
Selon Madame Cochrane, aux yeux des dirigeants du Nord, l'ouverture des voies maritimes provoquées par les changements climatiques ainsi que les ressources du Nord suscitent l'intérêt des puissances mondiales comme la Russie, la Chine et les États-Unis.
It's paramount for Northerners that were involved in decisions that impact the North.
Il est primordial pour les habitants du Nord que nous participions aux décisions qui ont une incidence sur le Nord, a-t-elle fait valoir à l'Assemblée.
Territorial premiers recently wrote to Prime Minister Justin Trudeau to convene urgent discussions on Arctic sovereignty and security.
Dans leur lettre à Justin Trudeau, les premiers ministres des territoires disent considérer la récente agression de la Russie comme une menace à la santé des collectivités arctiques et aux valeurs de paix et de coopération qui guident les affaires arctiques. Ces derniers soulignent notamment les efforts dirigés de la Russie vers la zone arctique au cours des dernières années. Dans l'histoire récente, peut-on lire dans la lettre, la Russie s'est lancée dans un programme ambitieux pour renforcer sa présence dans l'Arctique, incluant la construction de nouveaux ports et d'infrastructures, ainsi que l'expansion de sa flotte de brise-glace et sa présence militaire. On ajoute qu'alors que les investissements et les intérêts mondiaux de la Russie poursuivent une croissance, nous craignons que l'agression de la Russie ne se présente inévitablement dans les affaires de l'Arctique. Les signataires soulignent également de potentiels enjeux pour le Conseil de l'Arctique, une organisation qui rassemble l'ensemble des nations circumpolaires et qui est actuellement présidée par la Russie. On peut lire qu'une violation aussi flagrante du droit international remet en question la possibilité de coopération entre les membres du Conseil, d'autant plus que la Russie préside jusqu'en mai 2023. L'agression russe en Ukraine démontre l'ambition de sécuriser son propre pouvoir aux dépens des autres, peut-on lire. La réouverture des frontières des territoires du Nord-Ouest tombait à point pour 9 jeunes du Collège Sainte-Anne à Montréal. Dans le cadre du programme Défi Monde, les jeunes de 5e secondaire ont eu l'occasion de prêter main-forte au centre d'accueil pour jeunes Homebase de Yellowknife. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec Alexandra Tarnowski et Yan Yao Alex Lee. Je suis avec Alexandra Tarnowski et Yan Yao Alex Lee, des étudiants de secondaire 5 du Collège Sainte-Anne à la Chine, donc à Montréal, qui sont présentement en voyage à Yellowknife. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous raconter un peu ce que vous venez faire dans le Grand Nord canadien pendant votre semaine de relâche?
Dans le fond, on est un groupe de 8 étudiants puis une coach qui viennent faire un projet avec le home base ici à Yellowknife. On vient pour... on a réaménagé 3 de leurs pièces pour les rendre plus comme confortables et chaleureuses pour qu'ils puissent comme plus les utiliser. Parce que les personnes qui travaillaient là-bas nous disaient qu'ils étaient vraiment pas souvent utilisés puis que c'était des grands espaces que... Ils voulaient que ça soit plus des espaces communs.
Dans quel contexte est-ce que vous venez ici?
Dans le fond, nous deux, on est des étudiants du programme Défi Monde. Et depuis notre secondaire 1, on était dans la même classe. On a travaillé 5 ans. Et au secondaire 5, on est séparés en 4. Chacun de ces 4 équipes, on va dire, ils ont tous un coach. Et ils vont aller en projet intégrateur. Et dans le fond, c'est nous qui vont choisir l'endroit, le pays dans lequel, l'endroit dans lequel on va faire notre projet. Pour nous, on avait, dans le fond, choisi le Yellowknife parce que il y a une grande partie de ça, c'était en lien avec la pandémie, la COVID-19. Parce que dans les années passées, ils sont toujours allés dans des pays plus loin, on veut dire, comme en Afrique, en Asie, qui sont peut-être des pays plus loin.
Comment, finalement, comment est-ce que vous trouvez Yellowknife? Est-ce que vous êtes dépaysé?
Le Canada, c'est un gros pays. Alors, quand on vient à Yellowknife, c'est quand même très différent qu'à Montréal.
En fait, c'est une des raisons qu'on a choisi Yellowknife parce que, à cause de la pandémie, ils nous ont dit qu'il fallait rester au Canada, puis on a trouvé que probablement à Yellowknife, on serait le plus dépaysé.
Mm-hmm.
Comparé à comme Vancouver, on peut quand même être dépaysé, mais c'est quand même une grande ville et tout. Donc, on a trouvé qu'ici, surtout avec les aurores boréales, et comme personne dans notre équipe n'était jamais venu ici. Donc, c'est une des raisons qu'on a choisi ici.
La mission comme telle, comment ça s'est passé au centre d'accueil?
Une des choses que le programme veut nous comme faire vivre, c'est l'ouverture à l'autre. Donc, ça, c'est une de nos plus grandes choses, c'est aller à la rencontre de l'autre, puis de vraiment apprendre plus sur des situations qu'on connaît moins et vraiment essayer d'avoir comme une ouverture d'esprit puis être un peu sorti de notre zone de confort. Donc, on a définitivement, ben moi, j'ai définitivement vécu ça.
De puis quelle aussi, manière, dans vos échanges avec les...
Il y a aussi un gros volet de notre projet, c'est qu'il faut faire un reportage et un documentaire. Puis ça, c'est la partie sur laquelle on est évalué. Donc, on a fait quelques entrevues avec les jeunes puis avec les personnes qui travaillent au centre d'accueil. Puis ça a été vraiment touchant. Puis je pense que c'est où j'ai fait le plus d'apprentissage dans ce voyage. J'ai vraiment été comme confrontée à des histoires puis des situations auxquelles j'avais jamais été confrontée avant. Puis notre mission, c'était aussi peut-être juste d'amener du bien, c'est faire quelque chose qu'eux ont sincèrement besoin de. Quand on les a contactés, on leur a pas dit « Oh, on va venir faire ce projet-là », on leur a demandé qu'est-ce qu'ils avaient de besoin. Donc, je pense qu'une de nos missions, c'était vraiment de comme combler un besoin, vraiment, au lieu de juste dire « Oh, moi, je sais qu'est-ce que vous avez de besoin, puis... »
Ben, qu'est-ce que vous avez appris, oui? Est-ce que vous aviez eu l'occasion auparavant d'avoir des échanges directs comme ça?
Pour moi, dans le fond, à travers les 5 années dans le programme Défi Monde, on a quand même une ouverture d'esprit quand on était enseigné.
Mm-hmm.
Et je veux pas dire qu'on connaît les situations, mais on a bien fait quelques recherches sur soit les personnes au centre d'accueil ou encore les foster homes en général. On a déjà entendu qu'il y a une grande parfois, ils sont là pour diverses raisons.
Tout à fait, oui.
Et ils sont toujours des raisons. Je sais pas, on a été enseigné en défilant de jamais, genre, « Ah, ils sont ici parce qu'ils prennent la drogue, là, ce sont des mauvaises personnes. » On a jamais pensé ça. Je vais pas dire complètement à cause de notre programme, mais oui, en quelque sorte, on a été enseigné de ne pas
penser ça. On veut sortir des stéréotypes.
Exactement.
Ça devait être extrêmement intéressant. Vos cours sont, j'imagine, en grande partie théoriques, mais de parler, de discuter, d'échanger directement dans le Grand Nord canadien.
Oui, il y a bien sûr des cours théoriques, mais on a aussi quelques expériences peut-être juste à Montréal pour... On a fait du bénévolat, on est parti à la découverte, dans le fond. Et ici, encore une fois, ça nous a prouvé que ce qu'on a été enseigné, c'est vraiment genre important. Parce que, on a déjà... Je sais pas la difficulté à expliquer, mais c'est comme si on était... expliquer que la réalité peut être différente et la réalité pour certaines personnes c'est difficile et qu'il faut leur comprendre.
Mm-hmm.
Mais après avoir parlé aux jeunes adultes, aux home base, on a vraiment réalisé que c'est réel, là. C'est vraiment genre une réalité. C'est pas juste des histoires qu'on rencontre.
Ouais.
C'est beaucoup plus commun qu'on pourrait penser.
Mm-hmm. Je pense que ça nous a aussi permis un peu de comme sortir de notre petite genre bulle. Parce que surtout en classe, même s'ils nous apprennent des cours de théorie puis tout, on est quand même dans une bulle d'apprentissage, de comme, notre petite vie, là, puis tout. Puis là, vraiment, d'entendre les témoignages et tout, ça nous confronte vraiment face à face avec...
La réalité.
Les histoires, puis la réalité, puis ça, je pense que ça m'a permis de vraiment réaliser à quel point, genre, j'étais choyée dans ma vie, puis tout.
Donc, prochaine étape, on tourne à Montréal et vous allez faire, vous dites, un rapport, un reportage par rapport à votre expérience?
Comme elle a expliqué déjà, c'est un reportage ou encore aussi un documentaire. Le reportage, ça toucherait sur notre projet, notre expérience à Yellowknife. Et le documentaire, c'est notre choix dans le fond. Et nous, on a décidé de choisir de parler de la situation...
Des réalités de vivre comme dans...
Dans un centre
d'accueil.
pour les jeunes. Et on va vraiment toucher sur l'importance de l'environnement dans lequel on grandit, mm-hmm. et comment ça pourrait affecter notre futur.
Ça me semble très intéressant. Bienvenue à Yellowknife. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent séjour.
Merci à vous. Merci beaucoup pour l'expérience.
Territoire d'info, c'est une équipe. On entend ma voix depuis 2 ans. On entend également la voix de mes collègues de Média Ténois qui sont avec moi. Marie-Soleil Desautels, Thomas Chabot, Lambert Barraud-Guinet, Giovanni Imidi et notre directeur, le directeur de Média Ténois, Maxence Jaillet. Ça fait beaucoup de monde à nommer. Bonjour tout le monde. Je voulais qu'on discute d'informations. C'est l'occasion d'en parler. C'est ce qu'on fait après tout et c'est ce qu'on a fait notamment à Territoire d'Info pendant 2 ans. On écrit tous également là, dans les pages du journal L'Aquilon. Qu'est-ce que c'est faire de l'information en français à Yellowknife, au territoire du Nord-Ouest? Tiens, Marie-Soleil.
Oui, je dirais que c'est un défi parce que la plupart des nouvelles, ça va être en anglais. Ce qui se passe, la communauté anglophone, évidemment, est plus nombreuse. Mais la communauté francophone, c'est une communauté vibrante où, en allant à la rencontre des gens, on arrive à dénicher des histoires, des petits joyaux et de couvrir le tout de manière assez unique, je dirais, pour cette communauté-là. Mm-hmm.
Thomas Chabot.
De mon côté, je dirais que faire l'information au territoire du Nord-Ouest, c'est réellement connecté avec une réalité différente. Quand on est dans une province majoritairement francophone comme le Québec, on ne se rend pas compte des difficultés que les communautés francophones en milieu minoritaire éprouvent ailleurs au Canada. Alors, c'est l'occasion de se reconnecter, mais aussi de faire de la nouvelle utile, parce qu'à chaque nouvelle qu'on sort, la majorité du temps, c'est la première fois que cette nouvelle est faite en français.
Mm-hmm. Lambert, vous êtes arrivé au territoire du Nord-Ouest en janvier 2022. Là. Ça fait quoi, 2-3 mois environ? Pour vous, Lambert, c'est quoi faire de l'information en français au territoire du Nord-Ouest?
Ce qui est vraiment intéressant ici, depuis les 3 mois, depuis que je suis arrivé il y a 3 mois, c'est de me rendre compte que la communauté francophone dans les territoires, elle est relativement petite. Et donc, dès qu'il se passe quelque chose, il y a une information à donner. Et je pense que la communauté étant assez... restreinte, les news et les choses qui se passent intéressent un petit peu tout le monde. C'est intéressant, je pense, d'avoir cet aspect rapide entre le fait et la nouvelle qu'on délivre au reste de la communauté.
Giovanni, responsable de l'information, vous êtes également au territoire du Nord-Ouest depuis janvier 2022. Qu'est-ce que c'est faire de l'information en français au territoire du Nord-Ouest?
Comme l'ont dit Lambert et Thomas, Thomas Chabot, c'est connecté avec une réalité différente. Pour avoir travaillé dans la communication par le passé, c'est assez différent. Et ici, on fait activement partie de ceux à qui on propose le contenu. C'est assez différent et c'est assez intéressant de faire partie de tout ça.
Mais vous, Thomas Etier, comment vous avez trouvé ça, votre expérience d'animer pendant 2 ans une hebdomadaire à la radio au territoire du Nord-Ouest?
Ce fut un honneur, comme j'ai dit dans mon introduction. Je pense que c'était extrêmement intéressant, comme vous l'avez dit vous-même, Thomas Chabot. Quand on sort une information en français, bien souvent, elle n'a pas été couverte en français. Il y a Radio-Canada, évidemment. Là, je dirais que la plupart du temps, l'information n'est pas sortie en français. C'est énormément de travail aussi. D'animer cette émission-là, mais j'imagine que vous êtes d'accord là, de couvrir l'information. C'est un très grand territoire avec une population quand même éparse. On veut aller à Baie-de-Chaucon, c'est quand même pas à côté, pour autant qu'on veut sortir de Yellowknife. Là. C'est extrêmement intéressant, on en apprend vraiment à chaque semaine. Je le répète.
C'est un honneur.
Oui. Oui, c'est un honneur d'être sur les ondes francophones des territoires du Nord-Ouest. Maxence Jaillet, il y a quoi, une quinzaine d'années que vous êtes au territoire du Nord-Ouest. Racontez-nous un peu, là, depuis combien de temps vous êtes engagé pour Radio Taga, le journal L'Aquilon, et qu'est-ce que c'est faire de l'information en français au territoire du Nord-Ouest?
Bien, c'est une aventure. Oui, c'est comme ça que je le vois aussi. Depuis 2007 que j'ai débarqué à Hay River pour ensuite venir à Yellowknife un peu plus tôt au fil de ma carrière de journaliste. Pour moi, c'est toujours c'est pas nécessairement l'effet, la nouvelle en tant que telle, c'est vraiment la proximité de ces collectivités-là. Quand on arrive à Hay River, ce qui fait qu'on se sente bien, c'est la, c'est les gens, c'est comment les relations que l'on peut avoir. À Yellowknife, on rencontre des gens au fil de notre travail, et puis après, ces gens-là, on est capable de les reconnaître à l'épicerie, à la poste, au bar, n'importe où finalement, ou même à l'extérieur lorsqu'on fait du camping. Fait que, oui, on est les observateurs de ce qui se passe et on rapporte ce qui se passe au territoire du Nord-Ouest, mais on est toujours très impliqué finalement dans cette collectivité, parce que cette collectivité-là, cette communauté est quand même très serrée, je le dirais. Et puis, ce que j'approuve avec, avec Médiaténois et finalement l'Aquilon et Radio Taïga, c'est qu'on on a réussi à avoir cette, cette historique et de la présenter après à nos lecteurs, à notre auditoire, et que c'est une source finalement assez intéressante et particulière du patrimoine et franco-ténois, mais aussi ténois. Avec le niveau de la radio et l'émission Territoire d'Info, ça nous a permis, je pense, d'avoir une autre dimension que juste celle des ténois, alors que vous, Thomas, vous êtes aussi allé voir au Nunavut, et je pense que vous avez fait un excellent travail de pouvoir nous donner justement une vision un peu plus grande que les communautés de Hay River ou de Yellowknife. Je tiens à féliciter ces deux ans de travail très professionnel.
Merci beaucoup pour les bons mots. Justement, vous y avez répondu en partie. Question difficile, pourquoi de l'information en français? Il y en a d'autres médias au territoire du Nord-Ouest, on n'est pas les seuls. Pourquoi on fait de l'information en français? Comment est-ce que vous voyez votre mission, votre rôle de journaliste à temps plein, hein, je le rappelle, francophone au territoire du Nord-Ouest?
Je vous dirais que l'information en français, c'est un droit que tous les Canadiens et les Canadiennes ont, et de pouvoir faire partie de cette machine d'information francophone pour la communauté locale des territoires du Nord-Ouest, on l'a dit plus tôt, c'est un honneur, mais c'est surtout, on a un sentiment de devoir et un sentiment d'utilité quand on fait partie de Médiaténois.
Je rebondirai là-dessus, Thomas, juste pour dire, ça fait pas très très longtemps que je suis arrivé, mais ça donne cette impression aussi qu'il y a une communauté ici qui est importante par son dynamisme, et que s'il n'y a pas de médias francophones pour parler des nouvelles de la communauté, il y a un certain nombre de choses qui pourraient se passer sans que personne en parle. Et je trouve que c'est une mission importante en tant que journaliste aussi de raconter les choses qui se passent, et que, comme dans beaucoup de communautés, s'il n'y a personne pour le faire, et bien les histoires, elles ne sont pas racontées. Voilà.
Mais sinon, ce que je pourrais dire, bon, ce serait un petit peu de la redite de mon édito d'il y a deux semaines, concernant justement l'importance des minorités. Ici, là, c'est la minorité en question, elle est en contexte linguistique, donc le français, mais voilà, de l'importance pour des minorités ethniques comme nous, linguistiques par exemple, et tout, de prendre parole et d'exister malgré la majorité qui l'entoure, et malgré la majorité au final écrasante qui propose quelque chose d'autre. C'est ça, partager, diffuser, au final c'est une manière d'exister, et de ne pas se voir imposer une manière de vivre par la majorité.
Et vous, Thomas, qu'est-ce que ça représente pour vous?
Je ressens bien, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. J'ajouterais l'importance peut-être... On parle de l'importance de la communauté, de rapporter ce qui se passe. C'est important aussi peut-être de sortir de la communauté francophone. Moi, la plupart des nouvelles que je couvre, je dirais qu'on concerne tout le monde. Je pense que c'est pas seulement de couvrir l'information qui concerne directement, là, qui préoccupe directement les francophones, mais peut-être d'informer les francophones comme n'importe qui d'autre au territoire du Nord-Ouest de ce qui se passe à l'Assemblée législative, de ce qui se passe dans les collectivités. Évidemment qu'on se concentre davantage sur Yellowknife, c'est ici qu'on est, c'est ici qu'on connaît les intervenants, mais évidemment qu'on va parler de ce qui se passe à Hay River, à Inuvik, et pas uniquement dans les... au sein de la communauté francophone. Merci beaucoup, Thomas Chabot, pour cette question. Bon, je pense que ça met fin à la discussion.
Bonne continuation!
Merci à toi, Thomas.
Félicitations, Thomas.
Merci pour ton émission.
Merci à vous et auditeurs, auditrices, évidemment. On va continuer à entendre de l'information sur les ondes de Radio Taïga, notamment à l'émission L'attitude de Thomas Chabot. Merci beaucoup.
Mélomane, musicienne, musicien, connaissez-vous le programme Cycle de vie d'un album? Mon collègue Thomas Chabot nous en parle.
Un programme fort intéressant vient d'être annoncé pour une deuxième édition. Alors, la première édition en 2021 s'adressait uniquement aux musiciens et aux professionnels de la musique du Manitoba. Cette deuxième édition prend de l'expansion. Elle s'adresse à tous ceux et bien qui proviennent de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de la Saskatchewan, des territoires du Nord-Ouest et du Yukon. C'est le programme cycle de vie d'un album ou EP pour le niveau avancé. Alors, ce sera l'occasion donc pour les artistes et pour les professionnels de la musique de développer leurs compétences en ce qui concerne le cycle de vie d'un album, donc de la conception jusqu'à la distribution. En fait, je vous propose d'écouter Véronique Trudel, coordonnatrice de projet pour Front Connexion, vous expliquer ce qui sera abordé lors de ce programme.
Ça commence avec une planification, donc on regarde le financement par exemple. Qu'est-ce que ça va être notre source de financement pour réaliser l'album? Est-ce qu'on va aller avec sociofinancement ou des subventions, etc.?
C'est un aspect bien important quand même de la création d'un album, le financement à la base.
Oui, c'est ça. Et après, on a la production elle-même, l'enregistrement, les musiciens, les relations avec les studios d'enregistrement. Et quand ça c'est fait, il y a la mise en marché. Il y a la distribution en tant que telle, que ce soit physique ou digital, mais aussi la mise en marché, la promotion, les médias sociaux, les relations de presse, communiqué de presse, et aussi on a les droits, les redevances. Quand on crée un nouvel enregistrement sonore, où est-ce qu'il faut enregistrer cette pièce-là pour pouvoir recevoir des redevances par la suite? Et démystifier aussi tous les droits d'auteur, etc. Et après, on rentre dans l'exploitation et les tournées.
On voit donc qu'il y a beaucoup de contenu dans ce programme, réellement le A à Z de la conception et de la distribution d'un album, le cycle de vie. Ce programme est bien nommé et pour donner toute cette formation, ce programme est séparé en deux volets. Alors le premier, la partie magistrale est d'une durée de 24 heures et sera donnée à tous les lundis et les mardis du mois de mai. Au total, ce sont 8 rencontres et chacune abordera un thème particulier. Et par la suite, les candidats sélectionnés pourront choisir un aspect à développer plus particulièrement. Ils seront parrainé avec un mentor, avec un formateur spécialisé dans ce domaine. En fait, je vous propose d'écouter à ce sujet Sébastien Charret, spécialiste de la gestion de droits d'auteur. Il nous parle de son apport au programme.
C'est tout le volet de droits d'auteur, donc tout ce qui est question de la rémunération du travail de ces participants-là lorsqu'il y aura diffusion à la radio, puisque leur but est de se professionnaliser, donc qui dit profession d'être rémunéré pour ce travail-là et pas de le faire uniquement pour la visibilité. Donc bien moi, entendu. Ça va être d'installer toute ce que j'appelle la tuyauterie pour s'assurer que s'il y a de l'argent qui découle de la diffusion, bien être sûr que ça se rentre dans leur poche et à quel endroit aller collecter ces redevances.
Nous venons donc d'écouter Sébastien Charret, spécialiste de la gestion des droits d'auteur. Et si certains de nos auditeurs sont intéressés par le programme, quelques critères doivent être remplis pour être éligibles. Alors pour les artistes, il faut avoir mis en marché au moins un album ou deux EP majoritairement en français ou de production francophone et démontrer un engagement ainsi qu'un dynamisme dans le développement de la carrière. Un artiste est inéligible s'il a déjà fait plusieurs tournées canadiennes complètes ou s'il est entouré d'une compagnie de gérance de plus de 4 employés. Et concernant les professionnels de la musique, ça peut être des gérants, des agents de spectacle ou tout autre acteur professionnel de l'industrie, il faut travailler régulièrement avec au moins un artiste de la francophonie canadienne, être activement présent sur le marché musical. Un professionnel n'est pas éligible s'il a plus de 3 ans d'expérience à temps plein dans l'industrie musicale ou s'il est déjà employé à temps plein dans une entreprise de musique de plus de 3 personnes. Alors si ce programme peut vous intéresser, l'entièreté de l'information ainsi que le formulaire de candidature sont disponibles en ligne sur le site web de musiquefrancophone.com, www.musiquefrancophone.com. Vous allez voir directement le programme dans Nouvelles. La date limite de candidature est le 12 avril.
C'est tout pour Territoire d'Info. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres au cours des 2 dernières années. Je le répète, ce fut un honneur de vous présenter l'actualité des territoires du Nord-Ouest et du Grand Nord canadien. Je continuerai d'ailleurs à le faire à l'occasion sur les ondes de Radio-Taga, mais surtout dans les pages du journal L'Aquilon. Je suis Thomas Étier, journaliste de l'initiative du journalisme local pour Média Ténois. Passez une excellente fin de journée.
Territoire d'info. une émission de l'initiative de journalisme local financée par le Fonds canadien de la radio communautaire.